Salut à toutes et à tous, quel bonheur de se retrouver pour la deuxième fois sur le podcast Rétrovision avec une qualité sonore améliorée. Le thème de ce soir est souvenirs d'arcade et pour en parler avec moi, nous avons Benzei. Salut Benzei.
Salut à tous, je suis très content encore d'être là avec l'équipe de Rétrovision. Youpi. Mais on a aussi Dracule, alias Melchior.
Oui, bonjour, je rejoins le groupe.
Salut Melchior, et nous avons bien sûr le magnifique, l'incomparable Damien DS. Salut Damien.
Salut à tous, salut Melchior, salut Benzaï, et salut Robin, bien sûr, le maître d'orchestre.
Ah merci, c'est gentil. Alors déjà, première chose, nous avons été très contents d'avoir des bons commentaires, que ce soit sur YouTube, Dailymotion ou sur abandonwarevideo.org, si vous voulez télécharger directement le MP3 pour mettre dans votre iPod un peu partout où vous allez. Donc ça nous a fait plaisir et ça nous a encouragé aussi pour faire ce deuxième podcast 100% arcade, consacré à nos souvenirs de bandes d'arcade, phénomène qui malheureusement a tendance à disparaître de nos jours. Mais juste avant de commencer, je voudrais poser une petite question à Benzei. Benzei qui nous revient tout droit du TGS, qui n'est pas le Tokyo Game Show, mais le Toulouse Game Show.
Le trompeur.
Benzei, est-ce que tu peux nous faire vite fait, avant de commencer le podcast, enfin avant de commencer sur ce sujet, un petit débriefing?
Alors, un petit débrief sur le Toulouse Game Show. Donc moi, j'ai été invité par un bon ami à moi qui est le joueur du grenier, le seul et l'unique.
Connais
il était
pas.
Très très sympa. Il les a appelés, il les a appelés en urgence. Il a fait bon, écoutez, là, y a Benta, il faut qu'il vienne. Y a pas de souci, vous démerdez. Et puis du coup, ben j'ai eu mon petit pass VIP qui va bien pour la journée du samedi. J'ai même pu faire des dédicaces en territoire francophone, ce qui n'arrive pas souvent. J'étais très heureux de voir que certains Français me suivaient. Je me suis rencontré. J'ai surtout fait de très bonnes rencontres comme François Descrac qui est le réalisateur de des Visiteurs du Futur qui est une web série qui marche très très fort et maintenant du Golden Show pour le compte d'Ankama.
D'accord.
Avec David Mourier et Mr Poulpe, ceux qui connaissent le reconnaîtront. Tout ça en fait j'étais très surpris d'ailleurs que des gens comme ça aussi talentueux adoraient mon travail, donc ça fait très chaud au cœur. Pareil pour le joueur du grenier Frédéric et donc son pote Sébastien qui travaille sur la série aussi. J'ai aussi fait la connaissance de Bob Lennon qui est un mec qui s'occupe de la chaîne Minecraft HD FR, la plus grosse chaîne sur la communauté francophone Minecraft, qui est quelqu'un absolument adorable et je me suis fait deux trois potes mine de rien.
Oui.
J'ai rencontré même Alex Pilote. Alors Alex Pilote, forcément, là, j'étais aux anges parce que c'est un des mecs qui m'a donné envie de faire de la vidéo sur les jeux vidéo parce que j'adorais tout ce qu'il faisait à l'époque quand il était sur Game One. J'aime beaucoup ce qu'il fait encore sur No Life.
D'accord.
Et tout ça, c'était vraiment pas mal. J'aurais dû avoir une interview avec Ernie Hudson qui est le Ghostbuster Black dans l'équipe et qui était là un peu pour teaser sur Ghostbuster 3 ou pas. Et malheureusement, en fait, on me l'a faite à l'envers. J'ai pas pu faire mon interview du tout à cause d'un interprète de merde. Donc, je lui dis d'aller chier. S'il écoute le podcast, il peut aller faire voir. Quoi.
Que d'aventure. Voilà. Que d'aventure. As-tu vu?
T'as besoin d'un interprète, toi.
As-tu vu Yu Suzuki?
Alors, j'ai vu Yu Suzuki parce que, en fait, à 8h du matin, j'étais dans la loge VIP et il y avait Yu Suzuki qui mangeait des croissants à côté de moi. Il avait énormément de journalistes à ses trousses et en fait tous les spots pour les interviews ont été bookés trois mois à l'avance par beaucoup de sites de fans. Alors à mon avis, si vous voulez des infos sur Yu Suzuki, sur son passage au Toulouse Game Show, allez sur n'importe quel site francophone sur Shenmue, à mon avis ils l'ont interviewé parce qu'il était juste blindé quoi.
Donc tu n'as pas pu lui demander de faire une dédicace pour Rétrovision?
Non, j'ai rien réussi à.
Enfin, c'est pas grave.
Quelle opportunité manquée.
C'est pas grave, la prochaine fois.
Mais bon, je l'ai vu en vrai. Il a une aura particulière avec cette énorme mouche en dessous de l'œil.
D'accord.
C'était
quand même que Yu Suzuki est le créateur de Hangon et Space Harrier, entre autres.
Exactement.
Et Outrun.
Ouais, justement, on va y revenir à Outrun là. Je sens que ça commence à venir. Alors.
Justement, hop, transition.
Oui, transition. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Dans quelle salle d'arcade alliez-vous le plus souvent et quelles étaient les bornes qui vous ont marqué? On va commencer par hasard. 1, 2, 3, ça sera toi. Damien DS.
Moi, la salle d'arcade où je suis le plus allé, c'était... Alors, on va dire, c'était pas vraiment une salle d'arcade, hein. C'était plutôt un café.
Oui.
Mon premier souvenir de machine d'arcade, c'était Ghosts and Goblins, c'est bien le premier épisode, hein, il me semble. Parce qu'à chaque fois, je confonds Ghosts and Goblins et Ghouls and Ghosts. Je sais jamais lequel est le premier.
Non, Goblin est le premier.
Ouais. Voilà, Ghosts and Goblins. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment mon premier souvenir. Sinon, ma première salle d'arcade, ça devait être vraiment fin 80, début 90. C'était au Portugal.
Ouais.
Donc voilà, et cette salle d'arcade avait un peu une réputation sulfureuse. Voilà, c'était déjà il y avait un panneau qui, où il y avait marqué interdit au moins de 16 ans et tout, donc j'avais l'impression d'être Indiana Jones quand je rentrais à l'intérieur. C'était un peu l'aventure, hein, donc et le pire c'est que de temps en temps il y avait des policiers qui venaient faire le tour pour voir s'il y avait pas des gens qui avaient moins de 16 ans à l'intérieur.
Ah, ouais,
donc, ouais. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Une fois, j'y suis allé avec mon cousin qui est plus âgé que moi. Et j'étais en train de jouer à Shinobi. Tout d'un coup, je sens qu'il se presse dans mon dos.
Ouais.
Et qu'il prend la manette comme ça. Et en fait, je comprenais pas ce qu'il était en train de faire. Et puis, quand j'ai regardé un peu derrière mon épaule, j'ai vu qu'il y avait deux policiers qui étaient rentrés et qui regardaient à l'intérieur. Et au fait, il était en train de me cacher pour pas qu'il me voie en train de jouer à la borne d'arcade.
D'accord.
Donc c'était un peu d'aventure, hein, voilà.
Ah bah, dis donc.
C'est Terminator 2 ton truc.
En effet. Et toi, Melchior?
Alors moi, c'est marrant que Damien dise qu'il ait eu des souvenirs du Portugal, parce que moi, je crois qu'un des premiers souvenirs d'arcade que j'ai, c'est quand j'ai fait un voyage en Italie avec mon école. On est allé à Rome et je me souviens, il y avait un café avec un flipper et une borne d'arcade. Et la borne d'arcade, c'était Samurai Showdown. Et je regardais ça avec des yeux émerveillés parce que c'était plein de couleurs avec une ambiance japonaise et j'ai adoré tout de suite. Mais une des arcades où j'allais le plus, alors plus tard, c'était La Tête dans les Nuages à Paris, vers Opéra.
D'accord.
Mais avant, en fait, j'étais en pension quand j'étais jeune. Ah. Et on avait trouvé avec un de mes meilleurs potes un moyen pour sortir de la pension. C'est que t'avais le droit d'aller voir des personnes âgées dans des maisons de retraite le mercredi.
D'accord.
Et donc on avait signé pour ça, rien que pour sortir de la pension, tu vois. Donc en fait, on avait tout l'après-midi le mercredi, il me semble, ou en tout cas quelques heures. Et l'idée, c'était tu sors de la pension, tu vas dans la maison de retraite, tu parles avec les gens et tu rentres en pension. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait à la maison de retraite pendant une demi-heure. Après, on se cassait et on allait à la salle d'arcade de Pontoise qui était à côté. Et on se faisait des grosses parties. À l'époque, c'était... Tekken, je sais plus lequel, probablement peut-être le 3, 2 ou 3, du Marvel vs Capcom 2. J'adorais Cruising USA, je m'amusais beaucoup là-dessus. Et c'était donc plutôt, ouais, je devais avoir 14-15 ans, je crois, à l'époque. Comme j'étais en pension, j'avais pas trop l'occasion avant ça d'aller dans des salles d'arcade, malheureusement.
D'accord. Ah bah c'est sympa, bonne anecdote.
Ouais.
Attention, avec Benzaï, je m'attends au pire. Vas-y Benzaï.
Alors bon, c'est marrant parce qu'en fait vous poussez genre des voyages, des grandes villes, des machins et des trucs quoi. Alors qu'en fait moi j'ai toujours habité en province, etc. Et mes grands-parents habitent dans une ville qui s'appelle Rouillac, qui est en Charente, qui est pas très loin de Jarnac, Angoulême, Cognac. Bon, Cognac, je pense que c'est à peu près la seule que vous auriez à peu près située encore. Comme on a vu, c'est tous du mal. Et en tout cas, à Rouillac, il y a toujours une frérie en fait. Genre à Pâques, à Noël et tout, ils ramènent toujours les mêmes forains. Et à cette époque-là, en fait, il y avait un forain qui tournait avec une mini salle d'arcade qui trimbalait de ville en ville, quoi. Et dans cette salle d'arcade, il y avait juste des trésors. Alors le truc, en fait, c'est qu'il changeait jamais ses bornes. Donc en fait, les mêmes bornes, c'était les mêmes bornes quand j'avais 5 ans que quand j'en avais 13.
C'est
mais,
bon.
Ouais. Mais du coup, ça me permettait d'attendre l'année d'après, tu vois, ou genre 6 mois pour que le mec revienne avec sa borne et que je puisse voir si je m'étais bien entraîné. Alors, il y avait surtout, ce qui m'avait beaucoup marqué, il avait le flipper de Hook,
ouais.
du film Hook, avec un petit écran LCD où il y avait des fois les interactions et tu jouais avec les manettes du flipper et ça interagissait. Oui. À l'intérieur du LCD, c'était vraiment fantastique. Il y avait pas mal de voix et des bumpers vraiment super colorés. Il y avait un crâne qui me fascinait pas mal à l'époque. Parce que bon, là, enfin moi, je pense à peu près être le plus jeune là du lot, donc imaginez que j'étais pas bien grand. L'avantage en fait, tu vois, que ce soit dans une frérie, c'est qu'il y avait pas ce côté sale enfumée, genre bouillon noir, mauvaise réputation. Donc du coup, tes parents te laissaient y aller relativement facilement. Il y avait un mec qui surveillait tout le temps, c'était pas très très grand, mais ce mec avait quand même du Final Fight, du du Spin Master surtout. J'ai énormément joué à Spin Master, parce que surtout pour un gamin, en fait, les décors et tout, les sprites étaient gigantesques, mais un petit peu cartoon, très plaisant. Ils avaient Double Dragon version Neo Geo qui était fun concentré absolu. Il y avait pas du tout ce côté un petit peu élitiste d'un King of Fighter. Genre quand t'étais gamin, tu mettais 10 balles dans King of Fighter, tu te faisais vite fait toller quoi. Alors que Street Fighter, il était suffisamment simple, puis il jouait un petit peu comme Street Fighter en fait au niveau des personnages. Il y avait un personnage par exemple, il a un combo, c'est juste tu bourrines sur le bouton, et quand t'actives plusieurs fois le bouton punch, en fait ses poings deviennent enflammés et tout. Et petit avec les gros sprites Neo Geo, c'était pas mal marquant. Mais ce mec, c'est pendant un temps, il a eu la borne G-Lock, il avait Little Enforcer, il avait pas mal de trucs, il avait une borne NBA Jam, il avait Overtop Rally. Tu sais ce jeu sur Neo Geo là que tu vois par-dessus, en fait c'est un jeu de bagnole.
Ouais, Rally.
Je sais plus. Unirally. Un truc comme ça, Overtop Rally, un truc comme ça.
Bref.
Pas mal de trucs. UN Squadron, la borne UN Squadron. Enfin, plein de jeux comme ça. Et du coup, en fait, tous les 6 mois, j'allais dans cette borne, je dépensais un fric monumental. Et même si j'avais des consoles à la maison, et tu vois, et j'achetais des consoles de plus en plus puissantes au fil des années, quand je revenais toujours dans cette borne d'arcade, je me souviens, j'avais genre X-Men. Sur ma Saturn, quoi, qui tournait parfaitement, qui était super beau, quoi, mais j'allais quand même refoutre des pièces de 10 balles dans ce Double Dragon Neo Geo, quoi, ouais. Parce qu'il était juste fascinant, quoi, voilà.
C'est aussi le fait de jouer avec un stick arcade aussi, c'est...
Ouais, aussi, ouais.
Ouais.
Qui marche pas souvent, mais...
tu m'étonnes.
Avec l'écran en burn-in, c'est toujours sympa.
Donc moi, en ce qui me concerne, j'en ai plusieurs, mais je vais pas toutes... je vais essayer de faire vite. Je me souviens qu'il y en avait à la fête à Neneu. Ça, c'était une espèce de grande foire à côté de Neuilly. Il y avait la foire Saint-Romain aussi, où j'allais souvent. Ça, c'était la troisième fête foraine, la plus grande fête foraine de France, en troisième position, je crois, qui était très sympa aussi. Il y avait une borne d'arcade où j'allais souvent. C'était au jardin d'acclimatation. D'ailleurs, j'y allais avec Damien Dès aussi.
Ça, c'est, le jardin d'acclimatation, c'est des grands souvenirs.
Grand souvenir.
Super.
Ah,
donc,
ninja, ça, oui.
Pour être plus précis, il y avait Dragon Ninja... Il y avait aussi Wonder Boy 3, ça c'est les deux vraiment dont je me souviens, j'en suis certain.
Golden Axe
aussi. Ensuite, ben c'est un petit peu, je fais un petit peu un tour de France là. Hein. Ensuite, on se retrouve à Biarritz. Il me semble qu'il y avait une salle d'arcade en dessous du casino de Biarritz. Marcus en a parlé une fois dans une de ses émissions, qui était, c'était pas comment ça s'appelle déjà, mais
Retro Game One.
C'est ça, Retro Game One. Je confonds avec Retro Game Test. Retro Game One, il en a parlé. Il y avait, je me souviens de rentrer là-dedans, il y avait Rastan Saga et Dead Angle. Ouais, c'est vrai. Ah, je m'en souviens vraiment bien. Il y avait aussi, là, on retourne à Paris, dans le 15e arrondissement, les fameux bowling sympas. Ils appelaient ça, ils faisaient la pub à l'époque. Donc, c'était dans un bowling, une salle de quilles, si vous préférez. Et, dès que tu rentrais, la première porte, il y avait la borne de Contra. Ça, c'était un classique. J'ai joué avec mon frère, avec ma belle-sœur. On n'arrivait jamais à passer le premier niveau. Mais c'est pas grave. C'était la tradition quand on avait fini notre partie de bowling. D'ailleurs, à vrai dire, je m'en foutais un peu de jouer au bowling. C'était essentiellement pour après faire la partie de Contra. Et, ouais. Et il y avait aussi Arkanoid avec sa fameuse, pas un trackball, mais, l'espèce de.
Oui. Oui, l'espèce de truc que tu tournes, là.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Après.
Enfin, j'avais un pote, nous on dit que c'est le truc pour s'entraîner, c'est un titty twister.
C'est ça. C'est ça. Et il y avait aussi, excusez du peu, il y avait aussi la borne Outrun en format cockpit. C'est-à-dire, on s'asseyait à l'intérieur, on pouvait régler le siège, on avait la pédale, on avait le petit ventilateur devant qui nous faisait du vent avec, pour nous donner cette sensation de brise maritime.
Ça c'est la classe par contre.
Et le cockpit qui bougeait, qui tremblait lorsque tu te prenais un palmier ou un mur.
Par contre, t'avais pas d'anana avec toi à côté.
Non. toujours pas.
Et pas tout, c'était pas complet au fait. Hein.
et il y avait aussi, alors là je lance un appel. Il y avait un jeu, même Damien n'a pas réussi à trouver. C'était pas vraiment une borne d'arcade, c'était une simulation de ball trap. Là je lance un appel à tous ceux qui écoutent, toutes celles qui écoutent. J'essaie de retrouver le nom de cette simulation de ball trap. C'était comme un écran de rétroprojection assez grand, et on avait deux fusils en plastique, des bonnes répliques qui étaient retenues avec des chaînes, des espèces de chaînes, et c'est ça. Et en fait, c'était des points lumineux en forme de cercle. Ça faisait un petit bruit avant que les disques s'envolent. Ça faisait trrr, les disques s'envolaient, et après on tirait, et quoi, à chaque fois qu'on appuyait, sur le bouton feu du fusil, ça faisait.
Et on voyait. Ça, je m'en souviens, le bruit, tu l'entendais souvent quand tu passais à côté des trucs de bande d'arcade, tu entendais souvent ce bruit-là parce qu'il y, y avait beaucoup qui avaient ce jeu-là. Quoi.
Et impossible de retrouver le nom. S'il y en a qui se trouvent, laissez un commentaire, envoyez-nous un message, faites ce que vous voulez, mais j'aimerais ça la revoir un petit peu sur Internet.
Est-ce que tu es sûr que ça a un nom et que c'est pas quelque chose de générique, sans nom, qui est dans beaucoup de foires?
Ben justement, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais alors, je voulais revenir vite fait sur le jardin d'acclimatation dont tu parlais avant, parce que moi, j'y allais beaucoup quand j'étais petit avec ma grand-mère.
D'accord.
Et j'ai aucun souvenir de salle d'arcade là-bas. J'allais beaucoup, tu sais, les marmottes avec le marteau.
Oui. Alors attends.
Je faisais ça à fond.
Je vais t'expliquer. Il y a une technique. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que les bandes d'arcade dont je t'ai parlé tout à l'heure, elles étaient dans le bowling, dans la salle de quilles à l'entrée, sur le côté.
Où je n'allais jamais.
Mais certainement.
Mais à un moment donné, ils ont retiré les machines d'arcade, donc peut-être que tu es trop jeune.
J'ai 31 ans, donc je ne pense pas.
Ah non, bah finalement, non. Peut-être t'es pas beaucoup plus jeune que nous, donc finalement, non, ça va alors. Mais c'est vrai que il y en avait beaucoup. C'était au début des années 90. Ils avaient beaucoup de bandes d'arcade, et puis après, au fur et à mesure, ils les ont enlevées. Et je crois qu'à la fin, on trouvait que Time Cop ou ce genre de jeu de tir un peu basique, quoi. Donc.
Mais ça, on va y revenir. C'est la quatrième question justement. Mais avant. Juste avant de faire une petite pause musicale, des souvenirs marquants. Damien, tu nous as cité le goût des policiers, c'était sympa. Melchior, est-ce que t'as quelque chose vraiment de qui t'est arrivé là-dedans, de tiens, faudrait que je raconte ça à mes petits-enfants plus tard?
J'ai quelques anecdotes sympathiques, une où je passe pour un con et une sympa. J'ai une anecdote, en fait, c'était à la tête des nuages dans Paris. C'était à l'époque Dreamcast et j'avais Soul Calibur. Et à l'époque, tous les week-ends, on allait chez un ami et on passait nos vendredis soirs jusqu'à 5h du mat à jouer à Soul Calibur, mais comme des porcs, on faisait que ça. Et en fait, un jour, on allait dans la salle d'arcade et il y avait l'arcade de Soul Calibur. Et je sais pas si vous avez vu la salle d'arcade et que vous l'avez comparé avec le jeu Dreamcast. L'arcade, elle est immonde. Les graphismes sont à chier. Et j'avais pas vu la bande d'arcade avant. Et donc, je vois la bande d'arcade. Il y avait quelqu'un qui était en train d'y jouer. Et j'étais tellement choqué que je dis, juste au-dessus de sa tête, je dis, c'est vraiment immonde. Mais pourquoi les gens touchent à cette borne alors qu'ils sont tellement mieux sur console? Et donc, la personne se retourne et il me dit « Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi ». On a commencé à parler, c'est devenu un bon pote à moi. On a échangé nos numéros de téléphone, après on s'est vu pas mal, donc sympa, comme quoi on peut se faire des amis en bande d'arcade.
Ah oui, c'est sûr. Ouais.
Y a pas de doute. Mais donc ça, c'était sympa. Et il y a une anecdote où j'ai assez honte, et ça revient à quand on allait à la bande d'arcade à Pontoise. Et donc on allait là-bas à pied. Et un jour, j'étais donc avec mon meilleur ami et on passait un pont et il y avait deux trois racailles sur le pont, genre qui nous parlent et qui vont genre ouais, t'aurais pas des thunes, s'il te plaît. Et alors moi, comme je ne voulais pas me débarrasser de mes 20 francs que j'avais pour aller à la bande d'arcade, tu vois, par réflexe, sans réfléchir, je dis non mais j'ai des clopes. alors le type forcément me dit ah bah tu m'en donnes une, sois sympa. Mais j'en avais pas. Et donc du coup, je me suis retrouvé comme un con à pas savoir quoi faire. Et j'ai dû dire un truc, je me souviens plus, mais j'ai dû dire un truc genre ah ben non, en fait, j'ai pas de clope, mais j'ai juste des thunes, mais je vais à la salle d'arcade. Enfin, je vais à la salle d'arcade, mais je veux pas me séparer des thunes. Et il me dit ah pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Je dis ouais, parce que c'est geek de dire ça, tu vois. Je m'enfonçais.
Et donc ils t'ont forcé à acheter des clopes et t'as pas pu jouer, c'est un peu ça, quoi, non?
Ouais, non, mais c'est finalement, on a tracé et ils nous ont pas fait chier. Donc voilà la petite anecdote.
D'accord. Ah, c'est sympa. Et Benzei.
Je me souviens, un mini golf qui est à l'île d'Oléron. Ils avaient une mini salle d'arcade avec pas mal de jeux. Modèle 2, c'était marrant d'ailleurs, ils avaient genre du Die Hard Arcade, version arcade, ils avaient surtout du House of the Dead en borne géante avec un super écran, et c'était pas un de ces House of the Dead où t'avais un écran en plexi qui protégeait l'écran derrière pour te forcer à avoir un recul particulier, c'était vraiment une espèce de borne avec, il y avait un pupitre, mais il y avait pas de séparation avec le grand écran géant, donc en fait tu pouvais jouer à 1 cm de l'écran si ça te faisait plaisir quoi.
D'accord.
Et du coup, en fait, on avait utilisé cette bande-là pour... on s'était bien entraîné, en fait, pour tous les patterns sur Saturn, parce que je l'avais sur Saturn. Et j'avais genre ça, j'avais sur Saturn, mais sur une télé de 36 cm dans un mobilhome, tu vois, parce que c'était, on était en vacances, quoi. Et vraiment, ma mère était désespérée de me voir jouer avec un pote, genre sur un écran 36 cm, à apprendre par cœur House of the Dead au lieu de profiter d'être Annie de Léon. Et vraiment, elle nous voyait prendre les vélos, fait, bah, c'est bien, vous faites du vélo. Et en fait, on avait tracé au mini-golf, quoi, pour foutre 10 balles dans la, on avait foutu, ben, 10 balles chacun dans la borne. On voulait le finir, en fait, en un crédit chacun. Mmh. Et pendant les boss, on était là, non, ce deuxième boss, il est affreux, quoi. Enfin, si vous y avez joué, vous savez de quoi je parle, quoi. Ce deuxième boss de House of the Dead, il est affreux, mais sur cette bande d'arcade, on peut tricher comme à la maison, c'est-à-dire que tu peux foutre ton flingue devant le boss, et là, tu es sûr qu'il t'échappera pas, quoi.
Ah, d'accord.
Et du coup, on a fini, on a one crédité, ce putain de House of the Dead 1, qui est, en version arcade, est mille fois mieux que sur Saturn. Et, d'ailleurs, je pense que si j'avais un peu de fric, je pense que c'est une bande d'arcade que je m'offrirais personnellement, quoi. Mais cette version-là, la version avec l'écran géant, voilà.
J'ai eu une expérience similaire, mais avec Time Crisis. En fait, je jouais beaucoup à Time Crisis en arcade. Et je l'ai acheté sur PlayStation 1 et j'avais le GunCon avec le bouton rouge là pour le système de couverture. Et j'y jouais tout le temps et je connaissais le jeu par cœur. Et donc j'allais en borne d'arcade et j'étais à poum 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 et je le maîtrisais de manière assez sympathique.
Ah ouais, c'est marrant parce que sur le coup t'as l'impression que tu fais une affaire parce que tu joues plus longtemps que les autres et en plus tu frimes un peu, mais au final tu te rends compte que tu mets juste de l'argent dans un jeu dans lequel t'as déjà investi chez toi, t'as une console et tout, enfin... Techniquement, si tu devais expliquer ça à un gamin, je pense qu'il dirait, mais vous êtes cons, les gars. Enfin,
mais alors ça, c'est vrai pour toi, parce que House of the Dead, c'est juste un jeu où tu tires de manière, tu vois, très basique, un peu à la Virtual Cop, alors que Time Crisis, t'avais quand même le recul, que je regrettais beaucoup à la maison, t'avais pas le ressort...
Avec la pédale.
Ah ouais, exact.
Avec la pédale, et ça a ajouté beaucoup à la borne d'arcade.
C'est vrai que t'avais le blowback sur le flingue, et ça, c'était la raison pour laquelle tu jouais à Time Crisis à l'époque.
Ah ouais, bah, clair.
Ok, donc moi mon souvenir marquant, mais en fait vous vous en doutez, j'ai vu toutes les bornes d'arcade, vu toutes les salles que j'ai fait, j'en ai vraiment pas mal, mais le plus marquant, je dirais, c'était un été 1987 à peu près, 87-88, donc ça remonte, hein.
Mais, j'étais pas né, quoi.
Sérieux, oh putain.
Je suis né en septembre 87.
Ah bah donc vous ne pouvez pas connaître.
Oh là là.
C'est pas grave. Non. Blague à part, c'était j'étais avec mon cousin et ça faisait 3 semaines qu'on préparait cette sortie. On avait décidé de nous amener à la foire Saint-Romain, la fameuse foire à Rouen là, qui est située sur sur les quais. Je sais pas si elle existe encore. Ça fait bien longtemps. Et évidemment, nous, c'était pas les manèges qui nous intéressaient, c'était les machines d'arcade. Surtout qu'on avait les consoles à la maison, l'Atari 2600, puis l'Intellivision. Donc, on aimait vraiment ça, jouer en arcade, les jeux étaient quand même mieux. Bon. On arrive là-bas, on avait mis nos pièces de 10 francs, on avait économisé pendant 3 semaines. Vraiment, tous les moindres pièces qu'on trouvait, 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs.
T'es remis sans famille, ton histoire, là.
Ah, mais. Tu vas comprendre pourquoi. On était vraiment impatients, on attendait que ça. On s'inventait des chansons sur Donkey Kong. C'était vraiment, on était excités. On arrive, on va à la borne d'arcade. Hop, et mon cousin, il sort une petite sa fameuse pièce de 10 dans un petit portefeuille, tu sais, un petit portefeuille en forme de chaussette, tu vois. Toutes les pièces de 10 étaient dedans. Non, mais c'est vrai. Attends, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Il choisit la borne Kung Fu Master. Kung Fu Master, tu vois, Super Born. On avait le jeu sur Atari 2600, mais c'était pas terrible. Enfin, c'était bien, mais sur arcade, c'est mieux. Allez, hop, on met une pièce de 10 francs dans. Et puis, je le regarde jouer. Ok, il commence. Et d'un seul coup, il y a 4 types. On avait 10 ans, une dizaine d'années. Il y a 4 types qui arrivent, mais plus vieux. Il devait avoir 16-17 ans. Ils se mettent derrière nous, puis moi je regarde, je suis fasciné par le jeu, je suis à côté de lui, je regarde, et puis les mecs ils nous font « Ah ouais, dis donc, t'es à quel niveau là, t'es à quel niveau ?» Et puis mon cousin tellement concentré à jouer, je lui dis « Ah bah il est au niveau, hein, là tu vois, c'est écrit ici, en haut il y a un hub, et puis tu peux voir que c'est au niveau, hein, tout ça. » Puis comment ça nous parle, et puis après ils s'en vont, ils nous disent « Ah c'est bien, ouais t'es fort, tout ça, blop, ils s'en vont. » Puis après mon cousin il fait le game over, bien sûr, et après… Il va dire, bon, bah, tiens, là, je vais faire une petite partie d'Afterburner. Et là, plus de portefeuille.
Plus de chaussettes, tu veux dire.
Plus de chaussettes. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Plus de chaussettes. Et Donc, on s'était fait pickpocketer, hein, on s'était fait, enfin, moi, j'avais toujours le mien, j'avais les mains dans les poches, mais lui, tellement il était pris, concentré dans l'action, pendant que les jeunes parlaient derrière lui, les plus vieux, on va dire, il s'est fait subtiliser son portefeuille, avec au moins, je sais pas, il devait y avoir au moins à peu près 50 francs. Mais 50 francs, quand on est petit, vous savez,
c'est beaucoup de mal à barre.
Surtout quand tu attends pendant des semaines et des semaines pour jouer à la borne d'arcade, puis tu te fais voler ton argent à 10 ans, c'est quand même, c'est un peu triste.
C'est traumatisant.
Ouais.
Est-ce que ça s'est bien terminé ou pas, quoi, non?
Après, je pourrais pas te dire, ça remonte à loin quand même, 87, 88, je me souviens vraiment du portefeuille de la chaussette. Je me souviens, il y avait un gars, c'était un blond à lunettes. Je pourrais pas te le...
Je remarque que cet épisode arcade amène beaucoup d'anecdotes sur les racailles.
Mais non, c'était pas vraiment
les racailles. C'était un lieu de perdition, hein. C'était vraiment ça.
Ouais. Non, en fait, pourquoi j'ai cité cet exemple-là, c'est parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, en 2011, quand on parle de salle d'arcade, on pense tout de suite aux machines, on pense tout de suite au PCB, au côté plus technique. Mais ce qu'il faut savoir aussi pour les gens qui sont un petit peu plus jeunes, c'est que ces endroits-là, et surtout dans les fêtes foraines, hein, je parle pas dans les bistrots où c'était quand même assez bon, mais dans les fêtes foraines, c'était quand même un repère, pas toutes, mais un repère de, je dirais pas de racaille, je dirais de loubard. De loubar, ah ouais. Tu sais, les mecs avec les...
C'est encore plus vieux.
un peu à la Renault, tu vois, avec le bandana rouge et puis le cuir et les Santiago. Et c'est vrai que, bon, quand on avait 10 ans à l'époque, puis quand on allait dans ce genre de truc, on n'était pas vraiment rassurés. Je sais pas, Damien, toi, si tu te souviens, mais des fois, on était un petit peu, là, un peu sur nos gardes.
C'était vraiment un truc de... C'était vite catalogué en truc pour blouson noir avec des cendriers à côté des bornes et tout.
Ah, je me souviens des cendriers.
Ah, on n'était pas à l'abri de croiser les forbans,
hein. Non. Allez,
faire gaffe. Regardez par-dessus son épaule quand on jouait. Attention, hein.
Ouais, c'est ça. Donc, il y avait deux pressions quand t'étais petit puis que t'étais dans les salles d'arcade. T'avais le pression de rentabiliser ta pièce de 10 francs que t'avais économisé pendant une semaine parce que les jeux étaient difficiles. Donc, c'est-à-dire que dès que tu insérais ta pièce, il y avait marqué, à 10 francs, c'était 3 crédits, je crois, 5 francs, 1 crédit.
Si, 5 francs c'était un crédit, 10 francs ça pouvait être 2, 3 crédits, ouais.
C'est ça. Donc, ouais. Il fallait vraiment que tu joues bien, tu vois. Il fallait vraiment que tu, donc t'avais cette pression-là, puis t'avais la pression de derrière toi, les gens qui se collaient à toi, faire attention qu'ils te piquent pas, parce que t'avais tes deux mains sur le panneau de contrôle, hein. T'as pas une main dans les poches, puis, donc il fallait faire attention quand même.
Et t'avais aussi ces connards, je sais pas si ça vous est arrivé, mais bon, surtout en plus, moi j'étais vraiment un bout de chou, mais genre tu mets 10 francs dans ta borne de Final Fight par exemple, et là t'as un mec qui arrive en ninja, qui appuie sur deuxième player.
Oui, ça m'est arrivé, oui. Juste
quand même, quoi. Et le mec il t'a piqué 5 francs, et après malheureusement, tu joues avec lui, quoi, et tu fais mais merde, quoi.
C'est un boulet et il fait que des conneries.
Non, justement, ça m'est arrivé. Dernière anecdote. Après, on passe à la pause. Ça m'est arrivé justement au jardin d'acclimatation en 1988 ou 89. Jardin d'acclimatation, donc au bowling, hein, n'est-ce pas?
La borne d'arcade. Déjà la télé couleur à cette époque-là.
Ouais. La borne d'arcade Dragon Ninja. Je mets 10 francs, 3 crédits. Je commence. Premier niveau. Tout se passe bien à peu près. Puis il y a un grand qui s'amène, bien sûr, un grand, deux têtes de plus que moi. Ouais, ça te dérange pas et tout si. Je fais une partie, tu sais, je t'ose pas dire non dans ces cas-là, tu vois. Alors hop, il appuie sur start, et le pire, c'est qu'il jouait mieux que moi, ce qui fait que moi j'étais game over, et puis lui continuait de jouer avec la pièce de 10 francs que j'avais mis.
Ouais, c'est
le pire, ça. Ah, tu vois, ça c'est.
Et d'ailleurs, il continue aujourd'hui encore, hein, il n'a pas fini. Il continue de jouer.
Ouais, sans doute. Ok.
Donc, ça fait peut-être partie de ses meilleurs souvenirs d'arcade.
Ouais, bah oui. S'il se reconnaît, il peut m'envoyer un message sur YouTube ou en privé, il n'y a pas de problème.
Il pouvait te renvoyer ta pièce de 10 francs par courrier, ça serait sympa.
Ouais, aussi. Ouais. Ok, on marque une petite pause musicale, justement avec une musique d'arcade. Il s'agit d'Hiroshi Miyoshi, avec la bande originale d'Outrun, l'OST. La musique s'appelle Magical Sun Shower, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde. Et c'est un remix, et c'est l'Euromix. Donc, Hiroshi Miyoshi, Magical Sun Shower. Voilà un excellent morceau, comme quoi on peut faire des remixes absolument fantastiques avec ce Magical Sun Shower. On reprend ce podcast deuxième partie avec les adaptations de jeux d'arcade sur les consoles ou les micro-ordinateurs avant 1995. Benzei, peux-tu nous en toucher deux mots?
Alors c'est très facile de parler vite fait parce que il y avait toujours en fait ce réflexe de dire voilà, quand le jeu va arriver sur console, ça va être moins bien. Et ça a été de moins en moins vrai plus on avance, mais là comme on parle un petit peu avant 95, la plupart du temps, t'avais une version un petit peu la mort moelle-neuve sur ta console, surtout la version Atari 2600, j'imagine même, parce que tu as parlé de Kung Fu Master sur Atari 2600. Moi j'ai surtout joué sur la version NES à l'époque. Mais la version NES, bon, c'est pas la version arcade, mais par rapport à la version 2600, c'est un chef-d'œuvre. On est d'accord. Ouais. Mais par contre, moi j'aimerais bien justement parler un petit peu des versions arcade, des versions consoles qui étaient même mieux que la version arcade de l'époque, parce qu'il y en avait quelques-unes déjà à l'époque et on y pense pas trop. Et t'as parlé de Contra la dernière fois. Et ben moi, si tu rejoues à Contra maintenant en version arcade, déjà l'écran, tu sais pas pourquoi ils ont choisi un ratio aussi merdique que ça, quoi. Le truc, c'est un rectangle, tu sais, complètement allongé vers le haut là. Je sais pas si tu te souviens bien.
Ouais. Ouais.
T'avais un mode de présentation comme si tu jouais à un shoot en scrolling vertical. Mais sauf que tu vois, j'ai un jeu en scrolling horizontal la plupart du temps, sauf le niveau de la cascade. Mais enfin bon, si tout l'écran a été juste changé pour faire le niveau de la cascade, c'est quand même vraiment un système à la con. Et t'avais ces espèces de sprites un peu zarbi, ils sont pas très beaux. Le saut périlleux de la version arcade, au secours quoi. Mm-hmm. Alors que quand tu joues à Probotector sur NES, qui est un des premiers jeux que j'ai eu sur NES, t'as l'impression bon déjà que c'est un autre jeu parce que tous les sprites sont changés, etc. Mais surtout que ça passe mieux parce que t'avais une fluidité, t'avais une animation qui collait parfaitement. C'est un jeu qui fait jamais défaut, qui a presque aucun clignotement, ni ralentissement, ni quoi que ce soit. Franchement, en expérience de jeu, je t'assure que si je prends mon petit frère, genre de 14 ans, lui qui a rien connu, qui connaît rien à la vie, je lui fous la version arcade de Contra dans les mains et après je dis tiens, on va faire un super Probotector, je pense qu'il s'éclatera plus sur Super Probotector parce que il y a une plus grande cohérence même je trouve graphiquement parce que Contra ils avaient foutu pas mal de sprites mais alors c'est vraiment d'un mauvais goût parfait hein. C'est vraiment je sais pas si tu revois vraiment le truc mais ça jure pas mal. On peut d'ailleurs retester la version arcade sur Xbox Live Arcade récemment et j'ai juste vomi par terre quoi, j'ai eu envie de brancher ma NES quoi. Donc du coup tu vois il y avait des petites surprises comme ça de se dire bah tiens en fait je préfère y jouer quoi, ou alors t'avais des jeux qui étaient des fausses adaptations de la version arcade. Ouais. Mais qui était finalement un jeu tout à fait différent. T'avais, par exemple, je pense à Shadow Dancer, par exemple.
Ah oui.
Très bon jeu en arcade. La version Mega Drive, rien à voir, c'est pas du tout le même jeu. Et non, le jeu vrai. Est excellent. Tout simplement excellent, quoi. Du coup, c'était pas mal, justement, de voir que certaines fois, t'avais pas juste le portage du pauvre pour que t'ailles dépenser plus de fric à la borne d'arcade, mais t'avais quelque chose, soit une expérience différente, soit même une expérience qui est mieux parce que, ils se sont dit, bon, ben voilà, ça fait 3 ans qu'on vous arnaque à coups de pièces de 10 balles. Bon, maintenant, on vous vend le vrai jeu, ou du moins, un jeu qui le fait bien. Et donc, bien sûr, le gros portage arcade, qu'on peut pas louper, c'est celui Street Fighter 2 qui a vendu des Super NES par carton avant qu'il sorte sur Mega Drive.
Je me souviens de ça, ouais.
Et donc, même si, bon, il y aura toujours des gens qui feront la fine bouche, qui diront, oui, le portage arcade, la version arcade est quand même mieux que la version Super NES, ce qui est pas fondamentalement faux, mais la version Super NES était tellement cohérente, bien foutue, avec, la même physique, le même feeling, etc., que du coup, t'avais l'impression, là, pour le coup, t'avais l'impression d'avoir l'arcade à la maison. Et du coup, c'était peut-être un des premiers jeux où tu disais, voilà, ça y est, là, on a l'arcade à la maison. En dehors de la Neo Geo, parce que là tu payais le prix de l'arcade, donc c'est un monde à part encore. Mais sur Super Nintendo, t'avais enfin l'impression d'avoir un petit peu rattrapé ça, quoi. Alors qu'avant, à l'époque, 8 bits, même micro ordinateur. Alors après, si tu veux parler de portage micro ordinateur, mais je vais peut-être vous laisser un peu la parole, quoi. Sur Amstrad, surtout sur Amstrad. Ah, ouais. Là, si on commence à parler de Contra sur Amstrad, là, ça va être c'est juste la catastrophe, quoi. Ouais, c'est très difficile.
Et toi, Damien, justement,
moi, j'ai commencé avec, j'ai commencé avec l'Amstrad CPC 6128.
Justement.
Parce que c'était ce qui était le plus accessible par rapport à mon budget.
D'accord.
Et donc, du coup, comme j'étais fan de Dragon Ninja à l'époque sur arcade, je m'étais dit, je vais me l'acheter sur Amstrad et tout. Et puis, en plus, c'est salaud. Sur la jaquette, ils mettaient les images de la version arcade pour donner envie.
Forcément.
C'était vraiment salaud. Et donc du coup, bah, on bavait sur la jaquette et tout. Et puis quand on mettait le jeu sur l'Amstrad notamment, on avait envie de pleurer, quoi. On avait l'impression de jouer à un autre jeu, quoi. C'était, ouais. Ça avait plus grand chose à voir. Ouais. Donc voilà. Donc les adaptations arcade, en tout cas sur Amstrad, n'étaient pas très réussies.
Ouais. Bah, moi, j'ai eu la même expérience que toi, mon petit Damien, sur Shinobi. Puisque tu te souviens, ouais. Dans le premier podcast, j'avais parlé que j'avais la cartouche qui était sous mon lit avant d'avoir la console Master System. Donc j'étais vraiment assez balèze à Shinobi. J'y jouais pas mal. Puis je me suis dit, oh yaya, super Shinobi sur Sega, les vives Sega, la Master System. Puis j'étais tellement habitué à l'arcade, d'un seul coup j'ai la console. Évidemment, la première cartouche que je mets, c'est Shinobi. J'allume la console et ce qui m'a le plus vraiment rendu fou, c'est les sauts. À savoir que sur arcade, pour faire un saut, ça prend 0,5 secondes. Et sur Master System, quand tu veux sauter avec le Joe Musashi, ah. Ça prend bien 2 secondes, 2 secondes d'écart. Et ça m'a vraiment, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Bon, alors après, bien sûr, t'as pas le choix, tu t'habitues, puis t'oublies la version arcade, puis tu joues à ça, ça passe. Mais vraiment, j'ai été assez surpris. J'ai été aussi surpris sur une bande d'arcade qui s'appelait Shadow Warrior. Ah oui. Shadow Warrior, et quand on voit la version micro, c'est d'une lenteur, c'est un beat'em up. Et c'est vrai que c'est pas la tasse de thé des micros, les beat'em up, mais c'est lent, c'est saccadé à mort.
Bah, c'était lent quand il y avait beaucoup de personnages à l'écran.
Ouais, ça aussi.
C'était à mort à ce moment-là, mais c'est vrai que si tu prends la version Amiga, bah, c'était quand même assez proche de la version arcade. En tout cas, graphiquement, c'était identique. Ouais.
C'était voilà. Surtout au niveau du gameplay. Mais il y a eu aussi des bonnes choses. Il y a eu aussi des bonnes choses, des conversions qui ont réussi, qui n'ont jamais égalé l'arcade, mais qui ont été réussies. Je pense, par exemple, à Toki, il y a eu une très bonne adaptation sur Atari ST et Amiga. Midnight Resistance, excellent. Et Roadland, un petit jeu de plateforme que vous allez bientôt voir dans les prochains Rétrovisions au mois de janvier. Comme quoi, des fonds peuvent faire quelque chose de bien.
Oui, et puis pour revenir sur ce que disait Benzaï sur des jeux qui sont mieux en console ou autre. Alors c'est pas exactement une adaptation parce le jeu est complètement différent, mais un jeu que je préférais énormément sur console que sur arcade, c'est Moonwalker. J'étais gros fan de Michael Jackson et donc j'ai acheté Moonwalker sur Mega Drive direct. Et le jeu, je trouve, sur Mega Drive, est beaucoup plus amusant à jouer que la version arcade, qui est dure à manier. Je trouve la vue isométrique est un peu bordélique, alors que sur console, ils sont revenus à une espèce de beat'em up, plateforme un peu à la Castlevania, on va dire. Et c'était beaucoup plus amusant à jouer, je trouvais.
Un peu le syndrome de Shadow Dancer, comme disait Banzai, c'est-à-dire une version différente entre la version arcade et la version console.
Ouais, voilà.
Pas du tout le même jeu, quoi. Voilà, c'est Final Fight sur Atari, parce qu'après je suis passé de l'Amstrad à l'Atari ST.
Ah oui, d'accord, vas-y, explique-nous.
Et j'avais donc Final Fight sur Atari, et là où je te rejoins, Robin, effectivement, c'est que là, pour le coup, c'était vraiment super lent par rapport à la version arcade. La version arcade, on appuyait sur le bouton, ça répondait du tac au tac, quoi. Il n'y avait aucun moment de latence sur Atari. Si on voulait donner 3 coups de poing d'affilée à toute vitesse, fallait appuyer clic, une fois, clic, 2 fois, clic, 3 fois. C'est-à-dire que si on faisait tac, 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 comme ça, version arcade à toute vitesse, le personnage, il donnait juste un coup de poing, et des fois, il donnait rien du tout parce qu'il avait pas eu le temps de comprendre que t'appuyais sur le bouton tellement que t'étais rapide, en fait.
Mais Benzaï vous dira que l'Atari ST a la meilleure sound chip de tous les ordinateurs.
Oui, mais bon, par contre, il n'y a pas le processeur le plus véloce, mais et justement, en fait, c'est de ça dont je voulais parler. Justement, je voulais juste citer 2-3 ports micro, qui sont juste parmi les ports micro les plus comiques, il y a l'attentat désespéré de faire Street Fighter 2 sur Atari ST, qui est juste absolument affreux.
Ouais.
Déjà, quand tu achètes un jeu de baston et que tu vois 6 disquettes dans la boîte, tu grinces des dents, tu fais, oh là, ça va mal se passer. Et j'ai un ami, en fait, il y a pas longtemps, qui m'a offert un Amstrad 464.
Ah ouais?
Avec un écran monochrome. et Street Fighter 1 sur Amstrad en écran monochrome, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Et il faut savoir que c'est donc j'ai levé le jeu bien sûr en version cassette audio. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, le jeu est vraiment sur une cassette audio. Il y a un lecteur, genre imagine ton lecteur Play School de tes jeunes années, mais avec un jeu dessus. Et t'appuyais sur play pour que le jeu se charge. Il fallait rappuyer sur play entre les combats en fait, parce qu'il fallait qu'il charge le deuxième personnage, le troisième personnage. avec une, il y avait pas de, enfin il y avait une bande son inexistante, mais qui, j'étais sur un écran monochrome, donc le jeu ressemblait à une mauvaise calculatrice mais arthritique. Et déjà que le jeu n'est pas brillant, et moi j'y avais beaucoup joué sur Atari ST déjà, et j'y ai gaspillé pas mal d'heures parce que j'avais que ça à jouer à l'époque. Là quand j'ai vu la version Amstrad CPC 464, c'est vrai que c'est pas brillant quoi. Et pourtant derrière, qu'est-ce qu'il y a, comme t'as dit Damien, qu'est-ce qu'il y a sur les screenshots derrière la boîte? Il y a marqué un tout petit, attention, screenshot de la version Amiga.
Oui, ça je m'en souviens, ça, ouais.
Comme quoi, il faut que les jeunes auditeurs, bon, je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, mais aussi il y en a forcément. Hein. Ah oui. C'est comme si on avait, je sais pas moi, genre la version DS ou la version Nintendo DS par exemple d'un jeu comme Ni no Kuni ou le dernier Mortal Kombat ou je sais pas quoi, et qu'il y avait des super écrans et tout derrière, mais il y a marqué tout en tout en bas, attention, screenshot de la version Xbox 360. Bien sûr, une console beaucoup plus puissante quoi.
Bah en fait, à l'époque, ce qui faisait la beauté des graphismes, c'était notre imagination. C'était essentiellement ça. C'était pas ceux qui fabriquaient les jeux, c'était notre imagination.
Ouais, voilà. C'est vrai. Et surtout pour les jeux de première génération qui étaient sur Mattel, Intellivision ou Atari 2600, t'avais des super belles jaquettes, vraiment. Puis quand tu mettais la cartouche, c'était fallait avoir de l'imagination, c'est sûr. Mais là, on s'égare un petit peu de l'arcade. On va marquer une deuxième pause musicale. On reste avec Outrun parce que c'est vraiment trop, trop bon. Toujours ce génie Hiroshi Miyoshi qui nous a fait des musiques absolument mémorables puisqu'elles sont encore remixées aujourd'hui. On ne s'en lasse pas. On s'écoute Passing Breeze. Troisième et dernière partie, à savoir malheureusement le déclin des salles d'arcade. Pour en parler, on va choisir par exemple, bah tiens, Damien DS.
Bah, le déclin des salles d'arcade, bah, c'est un peu survenu avec l'avènement des dernières générations de consoles, voire même l'avant-dernière génération à partir de la PlayStation 2, l'arrivée de la Dreamcast, tout ça. Oh ouais. Puisque finalement... On retrouvait des jeux aussi bien réalisés que sur arcade, parce que ce qui faisait l'attrait des salles d'arcade, c'était justement la qualité des jeux qui était avant l'arrivée de ces générations de consoles souvent meilleure que ce qu'on avait à la maison. Oui, donc voilà, donc du coup c'est ce qui a commencé à provoquer le déclin des salles d'arcade, parce qu'on a commencé à trouver des jeux de qualité identique à la maison, et donc pourquoi aller mettre 2 euros. Ah, porte-monnaie. Pourquoi mettre 2 euros alors, voilà. Et surtout quand on était une bille en arcade comme moi et Robin, pour pas te citer.
Ah ouais, non, c'est vrai.
Donc, où ça nous revenait vite très très cher. Je me souviens, d'ailleurs, on jouait essentiellement aux jeux de tir, genre House of the Dead, parce que c'était les jeux les plus simples à jouer au final. Parce que tous les jeux de baston à la King of Fighters et compagnie et Super Street Fighter 3 Dash Pre-Mixed, il y avait tellement de coups, de folie à retenir et tout qu'on perdait très 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 vite.
Ouais, c'est vrai. Surtout avec le prix de l'arcade maintenant. Maintenant, l'arcade, c'est surtout dans des game centers, hein, c'est surtout dans des salles vraiment style la tête dans les nuages. Vous en trouvez plus dans les cafés ou dans les foires du trône. Mais c'est ça, c'est 2 euros la partie quand même. Surtout que si tu joues quoi, si tu fais un versus fighting, puis que tu joues contre quelqu'un qui est plus fort que toi sur King of Fighter 99, bah tu joues une minute trente, puis après c'est fini.
Oui, et encore, j'ai fait du versus fighting à Tokyo et j'ai dû pas durer une minute trente à mon avis.
Ou alors à moins Melchior, si tu connais la fille qui est gérante, puis elle peut te mettre des crédits gratuitement. Ça nous est déjà arrivé. On a déjà vu des gens qui jouaient à l'arcade, n'est-ce pas, Damien?
Oui, c'était pas pour nous.
Mais... Ils étaient là, ça faisait une heure qu'ils étaient là. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, ils jouent comme des dieux ou quoi? Bah, chaque fois qu'ils perdaient, t'avais la fille avec son petit veston bleu, là, la tête dans les nuages.
Avec son fini, les gars. Là.
Ouais, j'ai fini. Vas-y, tu peux nous mettre des crédits, là, t'as vu? Ouais, je vais vous en mettre, vous inquiétez pas.
Merci, salut, les fameux dracailles, d'ailleurs, qui sont toujours présentes, hein.
Elles sont martyrisées jusqu'à la fin, quoi. Non, mais...
Enfin bon, je... Bon, voilà, c'est tout ce qui va se passer. À toi, mais...
Donc, voilà. Non, c'est ça. Oui, parce que les salles d'arcade étaient souvent situées dans des zones de non-droit. Donc,
voilà. Non, pas forcément. Pas forcément.
C'est le survivant.
Non, mais c'est vrai qu'il y a...
Pour revenir sur le déclin des bandes d'arcade.
Oui, vas-y.
Autant en France, il y a encore la tête dans les nuages. Ça reste, même si c'est médiocre, ça reste une salle d'arcade à peu près correcte. Il y a 2-3 endroits où on peut aller. Au Japon, il n'y a pas de déclin. Je veux dire, j'étais à Tokyo maintenant ça fait 8 ans, mais c'était génial. J'y retourne l'année prochaine. J'espère que, à mon avis, ça n'aura pas changé beaucoup. Ouais. Mais j'habite aux États-Unis et ici, mais c'est à pleurer. Il n'y a rien. Il y a quelques individus qui individuellement se disent, je vais faire une salle d'arcade. Donc tu en as 2-3 dans le pays. Tu vois la taille du pays. Qui sont connus
à Los Angeles, non?
Je connais pas très bien Los Angeles parce que j'habitais à New York et maintenant je suis
Texas. San Francisco.
San Francisco, c'est possible. Je sais qu'il y en a une très bonne à Austin, dans la capitale du Texas.
Ouais.
À New York, il y a rien. Et, en fait, maintenant, ce qu'ils ont, c'est des trucs qui s'appellent Dave & Buster. Et en gros, c'est des endroits où tu vas avec tes gamins pour leur anniversaire et c'est un peu genre, tu sais, t'as des trucs où tu fais des paniers de basket, t'as des petites machines, t'as des tickets, t'as des trucs comme ça.
Ah oui.
Et t'as 3 bandes d'arcade qui se battent en duel. Ouais, et c'est des jeux basiques, genre House of the Dead 6. Et tu vois, enfin, vraiment rien de, y a rien, c'est affreux.
Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Moi, j'ai quand même eu une bonne surprise l'avant-dernière fois que j'étais aux États-Unis, j'étais à Reno, en fait, dans un casino. Dans un hôtel casino, ils avaient un étage dédié à l'arcade, donc il y avait pas mal justement de ce truc là, whack-a-mole, là où tu tapes sur des taupes et toutes les conneries dans le genre. Mais par contre, j'étais quand même surpris par rapport à leur catalogue arcade parce qu'ils avaient du pop and music, ils avaient du Guitar Hero en version arcade que je ne connaissais pas du tout. Ils avaient du Time Crisis 5, ils avaient du House of the Dead 4, ils avaient même du Mario Kart arcade avec plusieurs bandes linkées. Ce qui n'est pas une bande que je vois, surtout en France, qu'on voit pas tous les jours. Uh-huh. Ils avaient un espèce de truc de méca absolument génial. Ils avaient pas mal de Beatmania, etc. Beaucoup de jeux de rythme. Parce qu'apparemment,
Mais un truc que tu ne vois pas du tout, c'est du versus fighting aux États-Unis. Je sais pas pourquoi, c'est introuvable.
À part Tekken.
Et encore.
Ouais.
Si, Marvel fait sur Capcom, ça cartonne bien, mais à part ça.
Oui, on peut aussi parler du manque d'innovation dans les jeux qu'on trouve dans les salles d'arcade. C'est un peu toujours le même genre de jeu. C'est jeu de baston versus fighting, ou jeu de tir, ou jeu de course de voiture. C'est un peu toujours pareil.
Ouais, disons que je pense que maintenant les jeux qui sont en arcade, ce sont des jeux auxquels tu ne peux pas jouer pour l'instant. Je sais pas la technologie comment elle va être dans les 5 prochaines années, mais tu ne peux pas y jouer chez toi. Comme par exemple le jeu de chien où tu dois promener ton chien sur un parcours, ou alors le jeu de pêche, ou alors le jeu de pour parler.
Ah, mais ça, tu le fais dans la vie réelle, ça. Je vois pas l'intérêt. De... c'est quoi l'intérêt de balader son chien sur une
marquage, ouais, ça, ou par exemple le jeu de ski, tu sais, où tu mets tes deux pieds sur des skis, puis tu dois tourner, ou tu en.
Voilà, après, c'est une question de logistique, effectivement. Si tu veux avoir la, tu peux pas avoir la borne d'outrun avec le cockpit ou la voiture ou la borne d'afterburner chez toi.
C'est ça.
Effectivement.
Oui, c'est ça. Pour moi, la salle d'arcade, ça apporte l'immersion. C'est une question de périphérique. Tu as la carabine avec le scope dessus quand tu joues à Silent Scope, tu es dans la voiture avec le volant, tu pareil sur la moto sur un gun, ou encore un des arcades que j'ai préféré, que beaucoup de gens n'aimaient pas mais moi j'adorais, c'est l'arcade de Star Wars Episode 1 Racer.
Ah, j'allais le dire, ouais. T'étais
dans Racer avec les deux espèces de pédales là, j'adorais cette arcade, c'était génial.
Ouais. Ouais. Non, exact.
Ben moi je me souviens que Damien, on a joué c'était Mario Kart. Je crois, mais c'était fait par Namco, si ma mémoire est bonne. Et il y avait une petite caméra, et tu pouvais prendre ta photo. Ce qui fait qu'à chaque fois que je doublais Damien, bah, il voyait ma photo au-dessus du kart.
C'est-à-dire jamais, quoi. Il y avait jamais ta photo au final, puisque tu me doublais jamais. Donc.
Ah, si, c'est arrivé une fois, quand même. C'est arrivé une fois. Si. Non, mais c'est ça. Donc, il faut que l'arcade, maintenant, nous apporte des choses qu'on ne peut pas trouver à la maison. C'est aussi simple que ça.
Exactement. C'est au niveau du hardware. T'as le MGS4 version arcade qui a un écran en auto-stéréoscopie avec, tu mets un casque dessus qui traque en fait les mouvements de ta tête pour viser directement avec le viseur, etc. quoi.
Ouais.
Justement pour avoir ce côté un petit peu plus grand, plus big que la maison, quoi. Et en fait c'est la seule chose qui sauve vraiment l'arcade, la raison pour laquelle le mec lambda ira en arcade, à part pour faire du versus fighting à haut niveau, etc. C'est que avec le déclin de l'arcade, il a fallu être de plus en plus séduisant, donc de faire des bornes de plus en plus grosses qui en France, comme ils se déradent, ça coûtait de plus en plus cher d'y jouer, et du coup en fait les gens ont fini par se désintéresser de ce truc là parce que c'était juste du vol, quoi. Mais en même temps, c'est parce que c'était impossible de le rentabiliser. Donc, c'était ce cercle vicieux. L'arcade était vraiment terminé à partir de la sortie de Dreamcast, ça, oui, c'est clair.
Et puis, comme disait Damien auparavant, effectivement, l'avant-dernière génération de consoles au niveau graphisme, la génération Xbox, Dreamcast, ça commençait à être quasiment légal de l'arcade. Donc, il y avait une raison beaucoup moins importante d'aller à l'arcade. Et cette nouvelle génération avec le online, maintenant, il y a plus. Enfin, je comprends que ça soit en déclin, même si c'est dommage.
Voilà, bah c'est sur
ce mot de la fin.
Oui, bah oui, on finit avec ça. Je vous remercie d'avoir participé à ce merveilleux podcast qui m'a rappelé plein de souvenirs puis qui va me rendre super bonne humeur pour toute la semaine. Très gentil, merci Benzei, merci Melchior, moi-même Robin, votre serviteur, et Damien DS, merci Damien.
Merci, salut, ciao.
Alors avant de se quitter, je voulais vous dire, si vous voulez voir une bonne vidéo sur l'arcade des années 70, vous allez sur Dailymotion et vous tapez « L'arcade dans ta bobine ». Vous allez tomber sur des séquences de films où il y a des bandes d'arcade. Je vous en dis pas plus, allez voir ça. Sinon, aussi pour vous dire que le prochain podcast aura pour thème les copies parties et les micro-ordinateurs Amiga et Atari ST, et nous aurons un invité surprise. Je ne vous le dis pas, sinon ce ne serait pas une surprise. Merci à tous ceux qui ont participé. On se retrouve dans quelques semaines, je dirais à peu près 2-3 semaines, ça va aller assez vite. À très bientôt et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Salut à tous.
Atari, c'est le meilleur.
À bientôt. Alors, salut.
Ciao.